Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Candice se voyait maman, mais sans que cela impacte sa carrière, pensant que son travail passerait toujours en premier. Et puis elle est tombée enceinte et a revu ses priorités, à tel point qu'elle a complètement changé de carrière. Tout s'est fait au fil de la grossesse, sa découverte de l'accouchement qui, lui non plus, ne s'est pas passé comme prévu, et pendant le postpartum. Pas de vague d'amour, un allaitement difficile à mettre en place, puis les nuits courtes qui se sont enchaînées. Alors Candice se forme pour comprendre les nuits des bébés et savoir comment apaiser le sommeil de sa fille, et aussi le sien au passage. Puis elle retourne au travail, celui qu'elle aimait tant, et qui a perdu tout son sens désormais. Devenir mère lui a fait prendre conscience qu'elle voulait se reconnecter à l'humain. À force de partage sur ses connaissances, Candice se reconvertit pour que le sommeil ne soit plus un sujet de mal-être, mais que cela devienne la fête du slip pour les bébés et les parents. Bonne écoute! Hello Candice!
Salut!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Merci de m'accueillir, je suis très contente d'être là.
Avec grand plaisir! Alors, toi, tu es la maman d'une petite fille. Elle a quel âge?
Elle a 3 ans, elle s'appelle Liv.
Ok, et tu vis en Espagne, c'est bien ça?
Exactement, on vit au soleil.
Depuis combien de temps?
Ça fait 6 ans, et puis à la base, c'était pas trop le projet de rester, mais un Covid, une grossesse et une naissance ont fait que finalement, on est resté ici.
Alors, on va revenir un peu en arrière, même longtemps en arrière. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman un jour, ou c'était pas forcément un sujet qui t'intéressait?
Non, je me voyais être maman, je me voyais fonder une famille, j'en avais envie.
Ouais.
Mais j'étais très dans ma carrière et du coup, je me disais, en me projetant maman, je m'en occuperai, bien sûr, mais voilà, mon travail, c'est très important et ça passera toujours avant et ça me fait bien rire parce que là, tout a changé, c'est-à-dire que ça, je me disais, enfin. J'avoue, je jugeais un peu les autres parents autour de moi en disant « Oh là là, mais ça, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça et tout ?» Et puis après, bon bah, la réalité est revenue.
Après, t'es tombée dedans, quoi, à ton tour.
Tellement, tellement, tellement. Et des choses où là, je suis complètement... elle a complètement chamboulé toute ma vie, dans le bien. Au début, un peu moins, mais oui, c'est très beau et c'est très beau de voir la moi d'avant et de pouvoir voir celle que je suis aujourd'hui.
Ouais, t'as complètement changé de point de vue.
C'est clair. Quand je vois les petites jeunes là, maintenant, je me dis, bah, attendez un peu.
Et alors, à quel moment t'as changé d'idée? Tu as commencé à t'intéresser à la maternité, au fait de peut-être devenir mère à ton tour?
Bah, je crois que l'horloge biologique, c'est pas juste une expression. Hein. Je crois que autour de mes 30 ans, ça a commencé. Enfin, j'ai rencontré mon mec à 29 ans. Mmh. Bon, c'était bien. On a déménagé ici. C'était déjà un gros morceau, une belle épreuve de couple.
Ah oui, tu m'étonnes.
Et puis après, bah, assez naturellement, c'est venu. Moi, je commençais vraiment à avoir envie. Je me disais que j'avance, mine de rien, et que j'aimerais avoir un petit baby aussi.
Ouais.
Et donc, je savais qu'effectivement, ça allait me faire un peu réenvisager ma carrière. Mais c'est tombé aussi à un moment où, un peu comme tout le monde dans la trentaine, grosse quête de sens, de pourquoi je fais ce métier, pourquoi je fais ça. Et, et vers où je veux aller et une envie vraiment profonde de plus être dans quelque chose de dans l'accompagnement et d'aider les gens et d'être en contact de manière bienveillante avec des gens.
Ouais, tu commençais un peu à avoir fait le tour de ta carrière et tu voulais voir autre chose.
Exactement.
Ok, donc avec cette réflexion, vous vous lancez
dans la... Bah oui, on se lance. Du coup, bah, je tombe enceinte et en fait, c'est... Bah, c'est... Bon, déjà, c'est quand même impressionnant d'avoir un humain qui se développe dans son ventre. Mais du coup, distance, j'ai pas mes parents ici, on n'a pas de famille ici, on n'a pas trop de... Et puis, c'était en plein Covid, donc... Du coup, la bonne partie, c'est que j'ai pu ne pas en parler au boulot tout de suite. Ouais. J'étais tranquille, j'allais me faire mes petites siestes pour pouvoir récupérer un peu. Et j'ai été hyper soutenue, pour le coup, par mon boulot de ce côté-là, parce qu'ils ont super bien compris. Et même quand on a pu commencer à revenir au boulot, je leur ai dit que je ne voulais pas, en fait, prendre des risques à ce moment-là. Mais du coup, grossesse à Barcelone, en espagnol... donc c'était super tout nouveau, de toute façon, tout est super nouveau, t'as ce que t'imagines, ce que tu vois dans les films et puis t'as la réalité. J'ai eu la chance que ça se passe bien, j'ai eu une super grossesse, j'ai eu 2-3 trucs un peu relous mais comme tout le monde, mais dans l'ensemble très bien et puis voilà, du coup...
Et donc t'as pu continuer à bosser pendant le Covid et pendant ta grossesse?
Ouais, c'était plutôt ça. J'étais à fond parce que c'était le Covid c'était un moment de... compliqué professionnellement pour tout le monde, ouais. Sauf pour moi, parce que je bossais dans les réseaux sociaux.
Ah bah oui,
et
effectivement.
Du coup, j'étais un peu la seule survivante du bateau, donc là, fallait être à fond. Donc j'avais pas trop le temps, et puis j'avais envie de faire bien, et de laisser les choses propres, et de partir sereine, en fait. Parce que c'était déjà difficile pour moi de laisser ce bébé-là du travail de côté, et de disparaître pendant... en Espagne, le congé maternité pour les mamans, et pour les papas, et de 4 mois.
Et oui.
Et ça, c'est trop bien.
Ouais.
Et du coup, donc 4 mois, j'ai rajouté 4 mois par-dessus, parce que j'étais pas prête, et que surtout, j'étais en train de programmer un petit peu ma petite fête du slip qui allait se profiler. Donc voilà.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse en Espagne? Toi qui parles pas un mot espagnol, comment tu gères
Alors au début, je me laisse un peu porter avec... pour premier objectif, une gynéco qui parle français, ce qui du coup,
ça peut aider.
Un premier critère qui était assez important, parce que moi je me débrouillais, mais mon copain un peu moins, donc c'est quand même bien qu'il soit au courant de ce qui se passe.
Ah oui. Ouais.
Donc du coup c'était ça. Et ici en fait le système de santé est un peu différent de la France. Il y a un système de mutuelles en fait qui ont des centres hospitaliers et du coup quand t'es affilié à une mutuelle, ton champ des possibles rentre dans cette mutuelle-là. Donc par défaut, je suis tombée sur cette gynéco-là qui parlait français, qui était top. Et qui était rattachée à une clinique du coup privée qui était à côté de chez moi.
D'accord.
Donc je me suis pas trop pris la tête sur ça. J'ai vraiment j'avais aucune notion de rien. C'est-à-dire que pour moi un accouchement c'était les jambes en l'air, péridurale et roule quoi. Donc je m'étais jamais posé ces questions. Puis j'ai commencé à lire et j'ai lu notamment la fameuse BD La naissance. De
Lucille.
Lucille Gomez, exactement.
Ouais.
Qui là, ça m'a fait une révélation absolue. Pareil, en fait, pendant la grossesse, j'étais vachement plus calme que ce que je suis normalement. Donc, je me reconnaissais pas trop, en fait. Je me disais, mais d'habitude, je suis hyper stressée. J'aurais été vachement plus en panique, surtout en pleine période quand même de pandémie et tout. C'était pas un moment facile,
oui.
Quoi.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, je l'ai vécu super smooth, cette grossesse. C'était vachement bien. Et quand j'ai commencé à lire tous ces trucs-là d'accouchement... Et puis, ici, pareil... alors je sais pas si c'est la gynéco ou si c'est général, mais je pense que c'est plutôt général. Ils sont très très accouchement physiologique, très allaitement, ils sont quand même un petit peu plus avancés qu'en France, bien que ça commence vraiment à arriver aussi par là-bas. Mais c'est vrai que là ils m'ont parlé rapidement de plan de naissance, d'accouchement physio, de salle nature, de trucs comme ça. Donc moi je me suis laissée porter, j'ai dit ok c'est cool. J'avais des amis autour de moi, notamment une qui avait accouché sans péridurale et vraiment naturellement, et qu'il a, enfin son expérience est trop belle, donc ça je me sentais un peu galvanisée par tout ça. J'ai fait allez go
je l'attente,
go et ou pas.
Et la réalité t'a rattrapée. Et alors t'as fait tout ton parcours avec une gynéco?
Ouais, en fait, tout mon suivi, du coup, je l'ai fait avec la gynéco, donc il n'y avait pas du tout de sage-femme dans l'histoire. Les sages-femmes, elles sont arrivées sur la fin avec des cours de préparation à l'accouchement en groupe.
Ah oui,
et
ok.
En parallèle, j'avais pris une doula, encore une fois, qui parlait français.
Ouais.
Aussi, qui. Parce que, en fait, je voulais quelqu'un proche de moi, moi en tant que personne et mon conjoint. Pour qu'elle puisse vraiment être là au quotidien, nous aider au moment de l'accouchement, s'il faut qu'on parle à quelqu'un, s'il faut qu'on... Enfin, là, c'est plus un moment où tu fais tes cours d'espagnol, quoi. Ouais. être efficace, qu'elle puisse prendre des décisions, enfin, nous aider à prendre des décisions, etc. Mm. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Cette fille, elle est incroyable. C'est vraiment une très, très, très belle rencontre. Et du coup, elle m'a vachement aidée aussi sur tous ces aspects-là, sur des cours de préparation à l'accouchement, mais de son œil à elle. Qui était vachement plus, qui intégrait beaucoup, beaucoup plus le papa, par exemple. Mmh. Alors que les cours de préparation de l'autre côté, certes, Covid oblige, mais les papas, ils n'étaient même pas une question s'ils venaient ou pas, ils n'étaient même pas invités. Quoi.
Ouais, oui.
Et là, c'était vraiment donner des tips au père, qu'est-ce que tu peux faire pendant l'accouchement, qu'est-ce que tu peux faire pour la soutenir, voilà comment elle va se sentir, voilà ce qui va se passer, et voilà ce qu'il faut que toi, tu fasses, c'est ça ton rôle pendant ce moment-là.
Mmh.
Et c'est des choses, des tips et des clés qui nous ont tellement aidé pendant l'accouchement que c'est vraiment énorme et je suis trop reconnaissante d'être tombée sur elle.
Et tu l'as vue à quel moment de ta grossesse ?
C'était pas tant... avant l'accouchement, c'était plutôt... On papotait de temps en temps. J'ai commencé à avoir plus besoin vers la semaine 37-38 parce que je crois que dans ma tête, je m'étais préparée à accoucher 2-3 semaines en avance.
Ah ouais ?
Et j'ai accouché une bonne semaine en retard. Donc ces 4 dernières semaines, elles ont été très longues. C'est-à-dire qu'à 37, je commençais à me dire « Ah cool, bon bah ça y est, c'est presque. » En plus, il y avait une pleine lune. Enfin, tu sais, tu crois à tous ces trucs-là. donc j'attendais et il n'y avait rien. Il n'y avait pas un symptôme, il n'y avait rien du tout. Et donc là, ça a commencé à être dur parce qu'en plus, à ce moment-là, t'as tous tes potes qui t'écrivent tous les jours « Alors, t'as pondu, t'as accouché. » Et j'en pouvais plus. En fait, je mettais mon téléphone, moi qui suis vraiment très très collée à mon téléphone, je l'écartais, je me disais non mais là je peux plus.
Ouais.
Je jouais à la Switch pour essayer de finir Zelda avant que la petite arrive. Et voilà, j'essayais de me déconnecter un peu de tout ça, mais j'avais besoin de plus de soutien à ce moment-là. Elle m'a vraiment beaucoup apporté pour me relaxer un petit peu à ce moment-là, jusqu'au moment où en fait, du coup, j'ai dépassé la semaine 40.
Ouais.
Je commençais dangereusement à m'orienter vers la semaine 42. Et là, parce que du coup, j'avais les échos avec l'échographe.
Ouais.
Qui, elle, m'a dit, là, ça sent le gros bébé, gros grand bébé. Là, il va peut-être falloir programmer un déclenchement.
OK.
Sauf que bon, après, j'ai compris. Enfin, après, assez rapidement, j'ai compris que du coup, ils ont des standards de taille et de poids espagnols. Et moi je fais 1m80, donc ils ont pas
trop. Ah oui, d'accord.
Je crois que, enfin, du coup, par rapport à ces lignes des courbes espagnoles, je pense que j'étais forcément la petite, elle était complètement au-delà de, ouais, de ce qui était prévu. Mais du coup, quand je me suis levée, elle me dit ah oui, ok, bon, alors peut-être que ça. Donc, bon, j'ai pu gratter un peu encore de temps grâce à ça. Et puis, du coup, ça m'a amené à une date fixée de déclenchement qui était, je crois, le 8 décembre.
Ok,
je crois. Et ce jour-là, Liv a décidé que c'était le moment. donc trop cool. Donc j'ai commencé à avoir les contractions et tout. Ça a été gentil. Enfin, c'était des fausses en fait. Enfin, c'était pas des contractions d'accouchement, c'était des contractions de coucou, je suis presque là.
Ouais.
Mais elle s'est bien préparée. Elle pouvait pas être plus prête parce que j'ai eu 2-3 jours vraiment. Un peu sport avec, tu sais, ce truc où ça fait pas trop mal parce que c'est des mini, c'est pas méchant, mais c'est quand même toutes les 10 minutes,
ouais,
jour, nuit, tout le temps. Donc du coup, c'était un peu long. Donc je commençais à être vraiment KO et tout. Et au moment de l'heure, enfin à l'heure où je devais aller à l'hôpital pour le déclenchement, la doula, elle, du coup, est venue à la maison.
Ouais.
Et je lui ai dit, en fait, moi, là, je sens que ça s'accélère. J'ai pas envie de me faire déclencher. Si je peux garder mon plan de naissance et essayer, essayons.
Ouais, t'avais fini Zelda.
C'est donc ce qu'on a fait. J'avais fini Zelda. Il est trop bien. Donc, si jamais il y a des... J'étais prête. C'est ça, elle a attendu quand même. C'est peut-être pour ça, en fait, que le retard est... Je n'avais pas pensé.
Bah oui, à te laisser finir ta partie. Tranquille.
Et donc, du coup, voilà, on attend à la maison. Elle a été top. C'était trop bien. J'étais hyper impressionnée parce que j'avais les contractions. On était en train de discuter. On papotait vraiment de tout, de rien. C'était la période de Noël. Donc, on parlait des fêtes, de machin. Et j'étais là, ah, attends, ça arrive. Je me mettais sur mon ballon, ça durait une minute, je me rasseyais, on reprenait. C'était trop bien, vraiment hyper doux et tout. Bon, à 4h du matin, ça commençait à être un peu moins doux parce que je commençais un peu à être. Ça commençait à tirer un peu et j'étais épuisée. J'en pouvais plus. Je me disais, attends, en fait, le temps se réduit pas. Donc, ça se trouve, en fait, on fait tout ça et j'ai loupé mon déclenchement et ça se trouve, elle sort pas, quoi.
Ouais.
Donc, on est allé à l'hôpital. Et donc là, et moi, je me disais, bon, j'arrive, il me déclenche, puisque c'était ça qui était prévu, quoi.
Ouais, c'était le programme.
C'était donc pas ça, le programme. Ah. Et donc, en fait, le lendemain...
Donc là, t'avais plus trop le projet d'avoir un accouchement sans péridurale
Je me disais, on va voir, parce qu'en fait, forcément, dans tout ce temps-là, je savais pas ni si le col était ouvert, ni si s'il y avait un projet quelconque que cet enfant sorte de mon ventre. Ouais. Donc, je voulais au moins savoir que quelqu'un regarde et qu'il me dise où ça en est.
Ouais.
Et ce moment-là est arrivé, ils m'ont dit, en fait, c'est pas du tout prêt, là, le col, il est pas du tout, enfin, c'est pas du tout, quoi. C'était, en fait, en train de se replacer pour, donc c'est ça qui me faisait mal, a priori. Mais c'était pas prêt du tout, quoi. Mmh. Donc je leur dis, bon, ok, c'est pas grave, on déclenche. Et ils me disent, non, on peut pas, parce que les shifts, les machins, donc ça sera demain soir. Et là, je fais, donc encore toute la journée. Mais bon, ils me disent, c'est pas grave, on te fait quand même rentrer, parce que ça a l'air de quand même bien travailler, donc, voyons demain matin.
Ok.
Le lendemain matin arrive. Et là, effectivement, en fait, ça c'était bon, c'était déclenché, j'étais à deux, ça commençait à être pour de vrai.
D'accord.
Là, ils m'ont proposé de percer la poche des os. Et en fait, là, c'est là que j'ai perdu un peu le contrôle. Ils m'ont percé la poche des os, ils m'ont mis une walking épidurale, donc une péridurale douce, où tu peux encore marcher, où tu peux encore te déplacer et tout. Mmh. Donc je me disais, bon, vas-y, c'est un bon compromis, c'est ok pour moi.
Ouais.
Donc, en effet, je pouvais marcher, c'était cool, hein, mais j'avais toujours aussi mal. Donc, donc, je vais te la faire courte parce que ça a duré longtemps, cette histoire. Mais à force de me refaire des péridurales qui ne marchaient pas, et avec un travail qui n'avançait pas, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils faisaient une péridurale, parce que du coup, on est passé de celle qui était douce à une vraie.
Ouais.
J'avais toujours mal. Donc du coup, ça a duré 3-4 heures encore comme ça, où j'avais super mal et où il se passait rien. Du coup, ils ne pouvaient pas me mettre de cytocine, du coup ça s'ouvrait pas, du coup ça servait à rien. Mmh. Ils me l'ont refait une deuxième fois avec un autre médecin. Donc ça, je te passe en plus le truc où tu te dis, mais alors ça veut dire quoi, que c'était mal fait, machin, bon.
Ouais.
Donc là, tu sens la descente un peu, où tu passes d'un truc pas du tout, papillon dans le ciel et compagnie, à un truc vachement plus... là, t'es un peu plus dans le dur.
Ouais.
Ils m'ont refait la péridurale, ça a repas marché. Et à la fin, ils m'ont fait... au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça suffit, là, je peux plus. Endormez-moi, ça suffit, je veux plus. Je sais pas, réveillez-moi quand elle est là et qu'on en finisse, quoi. Là, je peux plus. Et ils m'ont dit non, parce que quand même, pour le coup, ma gynéco, elle avait encore en tête un tout petit peu ce qui survivait de mon plan de naissance.
Ouais.
Elle m'a dit, écoute, on fait un dernier test. On va te mettre ce qui s'appelle une intradurale. Donc, c'est la piqûre de la péridurale, mais vraiment directement dedans, sans dosage.
Ok.
On te met tout comme pour une opération du genou, d'un truc un peu lourd, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Donc je dis, bon, vas-y, fais ça. Et elle me dit, par contre, ce qui est les règles, c'est que ça dure 1h30, à peu près, c'est la durée de vie de ce truc-là. On te met le cytocine au max du max pendant ce temps-là. On espère arriver à 7 cm et après que tu puisses reprendre le flow toi-même. Donc je dis, bon, écoute, tentons. Et elle me dit, pendant ce temps-là, 1h30, tu dors, tu te reposes, tout ça.
Ouais.
Ils le font. Ça marche, effectivement. Je sens plus rien.
Ouais.
Mais au bout d'une demi-heure, je sens que ça revient. Et là, je peux pas. Ma tête, plus rien ne peut. Entre-temps, méconium dans le bidou. Moi qui commençais, ça saute à biper de partout. Je sais même pas qui bipait, si c'était elle, si c'était moi. Je crois que c'était moi. J'avais de la fièvre, je crois. Enfin, là, à partir de là, il y avait plus grand monde à bord. Et c'est là que j'étais bien contente que mon mec soit là.
Ouais.
Pour poser les bonnes questions au gynéco sur chaque décision qu'on prenait. On avait vu un truc qui s'appelait le brain. Alors là, pour me rappeler ce que ça veut dire, mais en gros, c'était de questionner le pourquoi pourquoi la décision, pourquoi il propose ça. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Et pour pouvoir prendre la décision en fait en toute conscience.
Ah oui.
Et c'était trop bien. Il gérait trop en espagnol. J'étais trop fière de lui.
Il est devenu bilingue.
grave. Parce que oui, c'est clair. Parce que pour le coup, la doula, elle faisait assistance téléphonique, mais à cause du Covid encore, elle pouvait pas être là.
Ouais.
Donc voilà. Et donc finalement, on dit ok pour ce truc-là. Ça ne marche pas, donc là je dis, moi j'en peux plus, là je peux plus, donc tant pis, je peux plus. Ils me disent, ok, bon bah césarienne, donc césarienne, et finalement, bah du coup, le soulagement, enfin, tu sais, j'entends beaucoup d'histoires de césariennes qui ont été très mal vécu, très difficile et tout. Là, pour le coup, moi, je l'ai vécu comme une, genre, une libération, quoi. Quand j'étais allongée, ils m'ont mis les trucs et tout, et il y a une sage-femme, je pense, qui est venue derrière moi, qui m'a fait des bisous et tout, elle était trop gentille, et qui m'a dit, elle m'a dit, écoute, là, regarde l'horloge, il est 21h02, dans 30 minutes, c'est fini. Et là, mais le bonheur de me dire, ok, et effectivement, elle est arrivée à 21h29, donc écoute, elle n'a pas menti.
Bon timing. Ok, donc là, césarienne, rencontre avec, avec ta fille. Comment elle se passe, la rencontre?
Là, j'ai plus trop ma tête, pour être honnête. Donc, je vois. Non, la chose qui m'a choquée, c'est qu'effectivement, c'est vrai qu'elle était grande. et que forcément, en césarienne, ça sort en vertical, quoi. Donc, en fait, ils ont baissé le rideau pour qu'on puisse quand même voir. Et j'avais l'impression, tu sais, dans ces spectacles de magie où les mecs, ils sortent des rubans de la bouche et ça s'arrête jamais. Et je voyais ce truc se dérouler, j'étais là, mais c'est pas possible, j'avais pas tout ça, c'est trop grand, elle est trop grande. Et du coup, bah voilà, donc elle sort. Ils ont quand même fait un, je sais pas si ça se fait en France, mais mon copain a pu aller recouper le cordon pour quand même avoir la symbolique, donc ça c'était cool, donc il est allé là-bas, ils me l'ont posé, et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Après, elle est partie en peau à peau le temps qu'il me prépare et qu'il me recouse et tout. Mais je pense qu'il y a eu peut-être une demi-heure de séparation avant que je puisse l'avoir sur moi et qu'on puisse avoir la première tétée et tout. Donc,
Ok. Toi, t'avais prévu de l'allaiter ?
Je m'étais dit, je me prends pas la tête. C'est très important comme information. Je m'étais dit, je me prends pas la tête. Si ça marche, cool. Si ça marche pas, tant pis. Ça n'a pas marché.
Mais et tu t'es pris la tête.
Donc, je pense que je me suis un peu raccrochée. C'est-à-dire que même si la césarienne, je l'ai bien vécue, je pense que je me suis un peu raccrochée au dernier truc que je pouvais encore contrôler, enfin je croyais, de mon plan de naissance. Et du coup, j'ai tout misé sur ça, mais j'ai vraiment, c'était vraiment très très dur. J'ai eu des crevasses le premier jour. Il y a eu la nuit de la Java. Elle avait plus de voix le matin, donc je te laisse imaginer la nuit.
Ouais.
Donc ouais, c'était vraiment très chaud. Notre doula encore était. C'est là que la doula, pour le coup, normalement elle fait le service avant vente, mais là elle était vraiment là pour l'après. Elle venait tous les matins à la maison, elle m'aidait sur les positions, elle m'aidait sur tout en fait. Elle a vraiment été d'un soutien incroyable à ce moment-là où moi je commençais à descendre là clairement. Dans ce qu'elle est après une dépression postpartum, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Et puis du coup, je contrôlais plus rien, et le seul truc que je contrôlais, j'y arrivais pas, et c'était un peu chaud.
Ouais, parce que t'es restée combien de temps à la maternité, après l'accouchement ?
Alors, je crois qu'on est resté 5 jours.
Ok.
Au bout de 3-4 jours, ils ont commencé à dire, là, il va être temps. Et moi, j'ai dit, là, je peux pas, c'est impossible, je suis pas capable, je peux pas. Pas tant physiquement, mais plus dans ma tête, je pouvais pas. En fait, j'avais pas encore. C'était trop pour moi.
Ah ouais.
Donc, on a réussi à gratter un petit jour de plus. Et alors, là, pour le coup, je dois reconnaître, les repas étaient trop bons. C'était vraiment trop bon. On était super bien chouchoutés. Et c'est vrai qu'il y avait le truc de quand même avoir le bouton de secours pour pouvoir appeler les sages-femmes qui venaient. Ça, c'est à la fois insupportable et à la fois incroyable.
Ouais.
La petite, elle hurle à la mort. Ça fait 10 minutes que t'en peux plus. Elle vient, elle prend dans les bras et elle
repart. Ça s'arrête. Ouais.
Et elle a pas fini de fermer la porte que c'est reparti. Et tu te dis, mais pourquoi ?
Et elles t'ont soutenue dans ton allaitement à la maternité ?
Énormément. Elles sont très très. Encore une fois, ils sont très très dans cette optique-là, donc à soutenir et tout. Après, est-ce que c'était la bonne manière ? Je sais pas, parce que j'ai eu le truc de c'est normal si ça fait mal. Insiste, c'est pas grave si tu saignes. Tant pis. Là c'était un peu plus difficile de ce côté-là, mais par contre elles ont vachement vachement soutenu, mais quand même ils ont dû quand même complémenter un tout petit peu avec du lait
infantile
pour que Liv puisse reprendre son poids de naissance et tout, donc c'est quand même bon, même s'ils soutenaient le projet, ils ont dû dire qu'il fallait quand même qu'elle mange cet enfant un petit peu.
Mais tu pouvais demander des conseils,
Ouais. J'ai vu, du coup, c'était un peu l'errance aussi, mais j'ai vu beaucoup de... Je sais pas, j'ai dû en voir 5 ou 6 de conseillères. Et c'est là que, du coup, j'ai commencé à comprendre le point auquel on est perdu là-dedans. Parce qu'en fait, les 6, elles me donnaient des conseils opposés, quoi. Donc, t'en avais une qui disait « Ah oui, bien sûr, il faut absolument faire ça. » Et je voyais le lendemain « Quoi, vous avez fait ça? Mais c'est horrible, vous êtes la pire. » Et là, ok. Est-ce qu'on peut avoir au moins de la mesure dans la réponse? C'est-à-dire que je... Mais après, c'est de ma faute d'avoir un peu erré aussi, d'en avoir vu autant et tout. C'est... Maintenant, je sais que quand tu choisis quelqu'un, faut y tenir et si... ou s'arrêter, ou je sais pas. Mais en tout cas, la petite errance que j'ai eue à ce moment-là, dans un moment qui était déjà difficile, c'était très compliqué.
Ouais.
Assez rapidement, ils m'ont dit quand même, bon, l'allaitement, c'est une chose, mais là, peut-être qu'avoir un psy, ça serait pas du luxe.
Ah ouais?
Ouais. Parce que je passais mon temps à pleurer. Enfin, c'était vraiment très très, c'était vraiment très très difficile. Ah oui, parce qu'en plus, oui, j'étais épargnée ce petit détail, mais j'ai ma cicatrice de césarienne qui s'est rouverte.
Ah ouais. Ah yeah.
Donc c'était pas très très fun non plus, ni visuellement, ni dans les soins, ni rien. Et plus, je pouvais pas faire grand chose. Je pouvais pas m'occuper d'elle. En fait, c'est mon mec qui a tout fait pendant le premier mois et qui a tout géré. Donc, en fait, je n'étais que là pour l'allaiter et j'y arrivais pas. Donc, je pense que j'étais vraiment en boucle dans ce truc-là. Et c'est ça qui était vraiment difficile. Donc voilà, je me suis fait aider et j'ai réussi à ressortir un peu de tout ça. Voilà, un peu plus équilibrée, en tout cas de let go un peu. Enfin, tu vois, d'accepter que bah tant pis, mon allaitement ça sera pas celui que j'espérais.
Ouais.
Que on va devoir complémenter avec du lait infantile et que c'est pas grave. Mais je culpabilisais à chaque biberon, mais j'étais là, mais pourquoi on fait ça et tout. Et au bout d'un moment, en me faisant aider, du coup, j'ai pu commencer à me dire, bah, en fait, pourquoi? Bah, juste parce qu'il faut qu'elle mange, cette enfant.
Ouais.
Donc j'ai commencé à tirer, je suis devenue experte en tire-lait et tout ça. J'avais pris les trucs sans fil, donc ça, c'était trop cool. J'avais l'impression d'avoir des boobs énormes en plus, mais c'était trop bien parce que je pouvais continuer à faire des trucs en même temps, m'occuper d'elle et tout. Peu à peu, j'ai commencé à pouvoir la porter, à pouvoir sortir, à pouvoir l'appréhender différemment que juste des mâchoires agressives pour moi, quoi.
Et alors, donc, de retour à la maison, ça se met en place petit à petit. Tu dis que tu t'es fait aider, donc c'est une psy qui t'a suivi, que la maternité t'a recommandé?
Alors, non, j'ai choisi d'aller vers quelqu'un d'autre qui était recommandé par l'ostéo qui s'occupait de moi pendant la grossesse et qui s'occupait de Liv ensuite. Et elle m'a parlé d'une personne qui est... alors, c'est un peu étonnant, mais qui est coach.
D'accord.
Donc, elle n'est pas psy. Mais que en gros, son pitch, c'est que en gros, t'y vas avec un objectif et en 3 séances, t'as plus le problème. Donc écoute, j'ai fait au point où j'en suis.
Ouais, je veux bien le numéro à la fin.
Elle parle français aussi.
C'est une belle promesse.
Ben, ça a marché, c'était un truc de ouf. Je pense que c'était un mix de PNL, de MDR et de coaching d'humain, juste ça. Donc il y avait vraiment une partie EMDR où on faisait des trucs avec les yeux. Donc voilà, donc du coup c'était ça. Et en effet, moi là mon problème c'était le lien d'attachement avec Liv parce que je sentais que j'avais du mal. C'était ça mon gros problème et plus je culpabilisais plus c'était dur. Et, et du coup en fait 3 séances et c'était mon
petit bébé
d'amour. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Et moi ça m'a vachement soulagée aussi parce que... parce qu'en fait, elle avait déjà 3 mois quand j'ai fait ça.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, voilà, c'était long, ces 3 mois où c'était juste de la difficulté, où c'était où je culpabilisais de pas avoir eu la vague d'amour. Tout le monde me disait oh là là, mais tu dois être trop heureuse. Et moi, j'étais là, oui. Là, oui, je déborde là d'amour. Donc, du coup, voilà, quand tout a commencé à aller un peu mieux, j'ai sorti moi la tête de l'eau et que ça a commencé à être un peu plus facile, ça a été mieux. Mais là, elle a commencé à ne pas dormir.
Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure que donc, ton chéri, le papa, avait aussi 4 mois de congé paternité. Comment vous les avez organisés tous les deux?
Alors, lui, en l'occurrence, non, parce qu'il est auto-entrepreneur et que du coup, forcément, il ne peut pas se permettre ça. Mais la réalité, c'est que c'est qu'il a vraiment mis entre parenthèses son business et qu'il s'est mis en galère parce qu'en fait, je ne pouvais pas. Le premier mois, c'était impossible, je ne pouvais pas. Les deux autres, je commençais à être un peu plus mobile, mais c'était vraiment difficile émotionnellement pour moi et tout. Et c'est seulement quand j'ai commencé, moi, à sortir un peu, à être un peu plus en confiance et voilà, stable, que là, lui, il a pu s'y remettre un peu, mais c'était compliqué parce qu'il bosse de la maison, donc forcément,
ouais.
On est toujours à côté, donc c'était vraiment pas facile pour lui, je pense. Mais ce que font les gens ici généralement, c'est qu'ils prennent, le mois obligatoire et après ils alternent l'un et l'autre pour tenir à peu près un an, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et c'est vraiment
tu peux le dispatcher comme tu veux sur. D'accord.
Exactement. Super. T'as le premier mois obligatoire et après comme tu veux.
Trop bien. On a hâte que ça arrive en France.
c'est une grosse aide, quoi. Pour l'implication du papa et tout. Alors moi, pour le coup, j'ai pas eu la question de s'il était impliqué. Il a pas trop eu le choix. Il l'a fait super bien et c'était trop bien. Mais c'est vrai que on n'a pas eu ce débat-là.
Alors toi, à partir du troisième mois, donc tu commences à sortir la tête de l'eau. Ça va être aussi le moment où tu vas devoir reprendre le travail, j'imagine, ou t'avais prolongé
J'avais prolongé, j'avais demandé à revenir en septembre, en fait, pour avoir le temps de profiter, de me mettre, de que ça se passe bien, avec elle. Je trouvais ça trop tôt de la laisser déjà des journées complètes, reprendre moi le stress et la vie que j'avais avant et tout. J'étais pas prête, quoi.
Ouais.
Donc, j'ai prolongé.
Est-ce que ta réflexion sur ta carrière revient à ce moment-là ou t'es encore dans ta bulle, ouais. Tu viens d'être maman, donc on verra après?
Non, là vraiment, avec ce que je me suis pris dans la tronche, là il y avait plus trop de bulles. Mais par contre, toute cette errance que j'ai eue sur l'allaitement, puis l'errance que j'ai eue sur le sommeil. Enfin, l'allaitement, je me faisais à 4h du mat, je me faisais YouTube en toutes les langues que je connais, donc j'ai le français, l'anglais, l'espagnol,
ouais.
pour me dire peut-être j'ai loupé un truc, quoi. Je sais pas, les positions d'allaitement, peut-être il y a un truc que je comprends pas, c'est pas possible, quoi. Et après sur le sommeil où je voyais des choses complètement opposées qui étaient ou pas d'informations tout court, juste ça, il dort pas, ok, ou des conseils improbables, laisser pleurer.
Ouais.
Donc quand j'ai commencé à voir tout ça, je me suis rappelé que j'ai une amie qui avait été accompagnée par une consultante en sommeil pour son fils et que ça lui avait changé la vie, enfin les nuits surtout. Et du coup ça m'est revenu et je me suis dit mais en fait bon, là, je galère. Donc, de toute façon, je galère. je vais me former. Et comme ça, au moins, moi, je suis formée. Je saurai. Je serai...
Oui, tu sauras faire pour ton cas à toi.
Exactement. Et en plus, en démarrant cette formation, j'avais un peu l'idée, mais je me disais, bon, on verra. Je suis pas prête. Je sais pas. Et en fait, non. Quand je l'ai fait, j'ai eu une révélation. J'ai trouvé ça passionnant de toutes ces choses physiologiques basiques qu'on ne sait pas et que je trouve ça dingue qu'on le sache pas en fait. Et du coup je commençais à me dire en fait là il faut que les gens sachent, c'est pas possible de laisser les gens dans la situation dans laquelle moi j'ai été. Je veux pas, en fait, je veux que si je peux adoucir au moins cette partie là à certaines personnes,
ouais.
que je le fasse. Et c'est comme ça qu'est née la fête du slip.
Alors, raconte-nous d'abord, toi, ce que tu as vécu avec le sommeil de ta fille. Ta fête du slip à toi?
Alors, moi, c'était une bonne fête du slip, en effet. Du coup, on pouvait pas la poser, hein, les trois. Enfin, voilà, c'était très, très compliqué de la poser au début. Quand il y a eu la première régression... elle faisait un truc vraiment très particulier, mais qui, en fait, est complètement normal. La nuit, elle faisait des grognements... une Chewbacca style que je vais vous épargner, elle, au micro. mais ouais, je dormais pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus la dépression et compagnie, mais j'avais une hypervigilance, donc j'étais au taquet. Dès qu'elle respirait, j'étais là. J'avais du mal à la laisser dormir, j'avais du mal à pas la laisser dormir. Je voulais absolument pouvoir la poser et avoir mes bras disponibles, mais elle voulait pas. Il y avait des tétés qui duraient une heure, où en fait elle tétait rien du tout, elle prenait une seconde, elle s'endormait, et en fait après je n'osais pas la poser parce que j'avais trop peur. Donc il y avait tout ça sur les 4 premiers mois, qui c'est complètement, pour le coup, physiologique et normal, c'est vraiment une étape. Il y a des tips, il y a des choses qu'après on a commencé à mettre en place, notamment l'emmaillotage, qui nous a changé la vie vraiment, qui nous a beaucoup beaucoup aidé, pouvoir commencer à la poser. Puis il y a eu la régression des 4 mois, qui n'était pas triste non plus. Et du coup, en fait, à ce moment-là, et c'est là que du coup je suis très reconnaissante à mon mec d'avoir été là, en fait, elle n'acceptait de faire des siestes qu'avec lui.
Ah ouais, d'accord.
Et il y avait quand même 4 siestes par jour, et lui, il travaillait. Hein, donc j'y allais, ça marchait pas, je ressortais, je pleurais. Lui, il y allait, en 3 secondes, c'était plié. Et donc là, j'ai fait, en fait, c'est pas possible, on va pas faire une vie comme ça. Je vais pas l'appeler toutes les 2 heures pour qu'il aille la coucher, c'est pas possible, quoi. Donc ça, les nuits, c'était normal pour cet âge-là, donc elle avait faim, et voilà, elle se réveillait un petit peu, mais c'était pas méchant. Mais c'était vraiment les siestes qui étaient très difficiles. Et voilà, et après, du coup, quand je me suis formée, je me suis aussi faite accompagner, parce que je voulais voir aussi comment ça fonctionnait, en fait. si ça allait s'appliquer pour moi, si ça allait marcher, etc. Et donc en effet, ça a fonctionné. Ça a mis quelques temps. C'est ce que je dis beaucoup dans mon livre, mais c'est pas magique du tout. Parce que ça prend du temps pour le parent, ça prend du temps pour l'enfant, ça demande de la confiance mutuelle et ça met du temps à se construire. Mais vers 8 mois, elle a commencé. Bah 8 mois, non, il y a eu la petite crise des 8 mois quand même. Mais après ça, après cette vague-là, on a commencé à être sur quelque chose de beaucoup plus tranquille et doux et tout le monde était plus rodé en fait et c'était beaucoup plus facile à gérer.
Ouais. Toi, t'avais fait un travail sur toi en même temps, parallèle.
Ouais. Une fois que j'ai fini le truc avec la coach, parce que c'était le problème vraiment du moment, j'ai derrière repris avec une psy pour pouvoir aussi avancer.
Ok. Donc là, te voici avec une formation sur le sommeil des enfants et ton travail qui est toujours en parallèle. Donc comment tu envisages les choses à ce moment-là?
À la base, je me suis dit que mon but, c'était juste de créer un compte Insta et de pouvoir proposer juste des conseils, c'est-à-dire vraiment partager les connaissances que j'ai pu obtenir.
Ouais.
Et les mettre à dispo. Donc vraiment une démarche sympa de vouloir juste partager les informations que j'avais eues pour aider des jeunes parents et pouvoir aller dans cette direction-là. Assez rapidement, j'ai eu des demandes pour des consultations. Donc du coup, j'ai développé cette partie-là. Et puis voilà, et en fait ça a pris et ça a fonctionné et ça a commencé à vraiment croître. Et moi, plus j'aidais, plus j'avais envie d'aider, plus je me sentais
à ta place.
Exactement. Tout ce que j'imaginais comme possible reconversion, c'était là en fait. Mmh. Et puis voilà, du coup c'est comme ça que tout a changé.
Et alors t'as eu beaucoup de messages de parents désespérés.
parce que du coup, une fois que tu sais que t'es pas seule, ça change tout.
Ouais.
Parce que alors il y a des sujets. Je parle pas que de sommeil sur mon compte Insta parce que c'est plus large que ça. Parce que moi, ce que j'ai traversé, c'était pas facile et qu'il y avait pas que le sommeil qui m'embêtait. Donc j'essaye d'ouvrir un peu plus pour essayer d'être dans une démarche qui culpabilise pas, où les gens se sentent écoutés, où ils ont et où ils comprennent qu'ils sont pas seuls du tout à traverser ça. Et que généralement le parent au parc qui te dit oh non, moi elle dort depuis toujours, quand tu creuses un peu, tu comprends qu'une nuit complète pour cette personne-là, c'est de réveil nocturne et que lui, ça le dérange pas en fait. Mais pour lui, c'est une nuit. Et toutes ces petites notions-là, c'est super important de les déconstruire pour qu'on se sente plus à l'aise ensuite avec sa maternité et qu'on arrête de se comparer, de se juger, de s'auto-flageller.
Ouais. Et aussi d'accepter qu'un bébé, ça dort pas non plus forcément, pas dès le début.
C'est pas un fleuve tranquille. Hein. La première année, clairement, non. Et pareil, tu vois, juste moi, quand j'ai compris ça, ça m'a mis une... Parce que je crois qu'il y avait un truc que je me répétais beaucoup, beaucoup dans les premières semaines, c'était mais c'est ça ma vie maintenant. Ça va être comme ça tout le temps.
Ah oui, parce qu'on n'est pas préparé à ça, finalement. On sait, on dit souvent, tu vas plus dormir dès que tu auras des enfants, mais concrètement, on ne sait pas tant qu'on le vit pas. Et toi, tu fais de la préparation à ça, justement
Oui, j'ai justement une consultation qui va être pour les femmes enceintes ou pour les tous jeunes parents, qui va pas du tout être... de toute façon, je suis pas du tout dans l'entraînement au sommeil en tant que... entraînement avec ce mot que je trouve hyper agressif, parce que c'est pas du tout ce que je propose. Mais pour en tout cas les jeunes parents, c'est pas du tout l'idée de trouver... de faire dormir l'enfant. C'est plus essayer de glisser sur ce qui se passe pour cet enfant et rendre les choses le plus acceptables et doux possible pour tout le monde, en fait.
Ouais.
Pas seulement maternage proximal max, et du coup, je m'oublie en tant que maman, mais aussi trouver l'équilibre entre les deux, pour que le bébé soit bien, et que maman soit bien, et que les deux comprennent que... Enfin, surtout, parce que le bébé, il ne comprend pas grand-chose, mais la maman, en tout cas, ou les parents, comprennent que il y a des choses qui vont se passer, de toute façon, des évolutions, que c'est énorme pour un nouveau-né d'arriver là, dans le froid et et sans sa maman et sans nourriture et sans, enfin voilà, c'est avec un système digestif qui doit se développer, enfin c'est énorme les ouais. trois premiers mois, c'est vraiment, et les trois premières années d'ailleurs tout court, c'est des gros bouleversements pour eux. Donc une fois que tu le comprends, t'as un petit peu cette empathie de te dire ok, mais là regarde ce qu'il traverse, et ça apaise vachement, parce que un, tu sais que c'est passager, et deux, tu te mets à sa place, donc du coup juste tu l'aimes cet enfant, donc du coup tu te sens un petit peu plus bah, t'as plus envie de l'aider que de juste péter un câble parce qu'il dort pas, quoi.
Ouais, et de comprendre que c'est pas contre soi, enfin, contre le parent que le bébé agit comme ça, c'est juste un bébé, en fait, un nourrisson.
Et que c'est hyper important. Enfin, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur les siestes qui étaient impossibles pour moi et qu'il y avait que mon mec qui arrivait. Quand j'ai été suivie pour le sommeil, du coup, de Liv, la personne qui m'a suivie m'a dit, essaye d'y aller en ayant confiance en toi. Essaye d'y aller en disant que ça va marcher. Et fait de la cohérence cardiaque. Et je l'ai fait, et elle dormait. Du coup, ouais. Juste me dire, j'y vais avec une posture de... Parce qu'avant, j'y allais, je disais à mon mec, bon, bah, vas-y, je reviens dans 5 minutes, ça sera ton tour, de toute façon, c'est mort.
Ouais.
Et là, le fait d'y aller en disant, non, ça va marcher, en disant à Liv, tu peux me faire confiance, ça va marcher, t'es en sécurité, tout va bien se passer et tout, bah, ça marchait. Et la première fois, je suis sortie. Et en plus, des siestes longues. C'est-à-dire que c'était pas ça et 20 minutes, quoi. C'était ça et genre une heure et demie. J'étais là, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, là? Donc, comme quoi, le bien-être de la maman aussi est super central et complètement oublié parce que c'est vraiment le truc qu'on se met en dernier de la liste.
Ouais.
Mais c'est super important.
Le livre, donc, t'en parlais, t'as sorti un livre, La fête du slip. Comment c'est né, ce projet? C'est à force d'avoir justement toutes ces questions sur tes réseaux
Ouais, bah c'était pas trop au programme pour moi, mais j'ai été contactée par la maison d'édition et du coup en fait ça faisait pas partie de mes plans là tout de suite.
Ouais.
Et quand elle m'a proposé en fait, bah moi j'adore écrire, j'adore ça, donc en fait juste quand elle m'a proposé, ça a fait germer le truc de me dire attends, mais je peux faire un espèce de condensé de tous mes posts, donner vachement d'informations, tout regrouper dans un livre pour des gens en fait qui ont pas Insta ou qui suivent pas ou qui me connaissent pas et avoir un nouveau billet pour les atteindre et pour leur parler, c'est trop bien. Et du coup, bah j'ai pas trop hésité, c'était ouais. J'y suis allée direct et j'ai adoré. Alors c'était long, c'est ouais. un autre type de bébé. Mais c'était, j'ai adoré faire ça, c'était vraiment trop cool.
Et alors, on retrouve quoi dans ce livre?
Bah du coup, je vais redérouler un petit peu. Alors, il y a une première partie qui est vraiment sur la physiologie, où là, c'est important pour moi de donner les bases du sommeil, en fait, expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe les hormones, déconstruire les idées reçues, notamment sur les pleurs, sur les caprices, sur ces trucs-là qui n'existent pas, enfin les caprices, hein, pas les pleurs. Mais comprendre les pleurs, savoir pourquoi ils sont là, comment les gérer, comment les accepter nous en tant que maman, etc. Donc cette partie vraiment la base. Et après je vais rentrer par tranche d'âge, donc 0-3 mois, 4-18 et 18 et plus, jusqu'à 5 ans, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, de rentrer dans les régressions, ce qui se passe à cette période-là, dans leur développement à eux, donc tout ce qui est marche, enfin les grandes acquisitions, quoi, le retournement, assis, marcher, etc., jusqu'à l'arrivée des émotions. Et donc je déroule un peu tout ça avec des tips concrets de comment on fait dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour gérer quand il dort pas, comment on ajuste. Je partage aussi ma méthode du coup pour aller vers un endormissement un peu plus autonome, qui est pas du tout une fin en soi, mais qui va vraiment quand même pouvoir aider certains enfants. Donc ça c'est à peu près tout ce que vous retrouvez. Et après j'ai fait une partie plutôt boîte à outils qui regroupe toutes les outils qu'on peut utiliser, toutes les astuces qu'on peut mettre en place, quelle que soit la tranche d'âge, avec différents niveaux d'utilisation.
Ouais.
Et une partie que j'ai appelée la vraie vie, parce que tout ça c'est bien beau, mais comment on fait quand on déménage, quand on part pour la première fois en vacances, quand il y a un petit frère qui arrive, quand on se sépare. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on gère avec le bébé? Comment et les maladies, les dents, enfin tous ces trucs-là que du coup sont un peu mis de côté quand on parle purement de sommeil, mais qui font complètement partie de la vie de ce bébé. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de partager cette partie-là. Et le dernier où je me suis un peu lâchée et je me suis fait un peu plaisir, que j'ai appelé les bons conseils, où je mets tout par catégorie, tous les conseils bien pourris qu'on reçoit des uns et des autres, les injonctions, les bonnes idées, les trucs de laisse pleurer, mets des céréales dans le biberon et toutes les autres bonnes suggestions qui ne marchent généralement pas, avec des petites suggestions de réponses où je suis restée polie, mais je laisse la liberté aux lecteurs, aux lectrices et aux lecteurs de se lâcher un peu plus.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Ça a tout changé. Franchement, je suis pas la même personne que j'étais avant. Je suis beaucoup plus patiente. Bon, alors ça, il n'y a pas trop le choix, hein, quand t'es maman. Mais je pensais pas que j'aurais été capable de supporter tout ce que ça implique. je me sens vachement plus complète en fait, alignée, et je suis trop heureuse, j'aime trop ma fille. Enfin tu vois, là ce matin on a eu une bonne grosse tempête émotionnelle pour une raison, une banane, enfin tout ce que vous voulez comme raison de improbable. Et je me voyais en train de lui faire un câlin alors qu'elle hurlait, que c'était la fin du monde et tout, et je me disais bah en fait ouais. J'aime bien ces petits moments où je me dis, en fait, tu gères. Ouais. Là, et ça a marché, tu vois, juste en faisant rien, en accueillant, en l'embrassant et en étant près d'elle. Mais ça, avant d'être maman, t'entends un bébé qui hurle comme ça, un bébé, une petite fille, qui hurle comme ça à la mort, t'as qu'une envie, c'est de t'enfuir, quoi. Donc, ouais. Du coup, voilà, je me sens vraiment beaucoup plus... Ouais, la nouvelle moi me plaît bien.
Et ta fille va à la crèche, comment ça se passe, enfin maternelle d'ailleurs peut-être.
Elle c'est maternelle là, du coup depuis septembre, ça a été
elle
sport.
Elle était à la crèche avant.
Elle était à la crèche, ouais, je l'ai mise, on l'a mise dans une crèche internationale pour le coup, parce qu'en fait ici la langue principale c'est le catalan, et je voulais quand même qu'elle ait de l'espagnol, et du coup il y avait aussi l'anglais dans la crèche, donc je voulais vraiment qu'elle ait au moins le castillan, donc l'espagnol. Ou presque aussi fort que le catalan, et c'était vachement bien, c'était une super crèche.
Privée, du coup.
Et en fait, de manière générale, la vie à Barcelone avec un bébé, ou en fait même enceinte, c'est incroyable, ils sont tellement centrés sur la famille, que en fait, t'es la reine, t'es enceinte, t'es la reine du monde, quoi. T'as pas à négocier pour quoi que ce soit. Quand t'accouches, pareil. Et alors après, ça arrive souvent, mais ça me fait trop rire, parce que surtout quand je vois les histoires en France, qui sont quand même assez difficiles, y a vraiment des femmes qui se baladent avec le boob à l'air, qui sont en train d'allaiter en marchant, quoi. Et ça me choque personne, c'est normal. Enfin, moi, je regarde avec... ça m'attendrit, je trouve ça trop mignon. Mais jamais ça sera un sujet de débat ou de discussion de voir ça, en fait. Pareil pour l'éducation, il y a des parcs partout, genre vraiment partout. Et en plus, ils sont malins, ils mettent les barres autour. Donc là, j'arrive presque à l'étape où, là, 3 ans, je vais peut-être attendre encore un peu, mais presque à l'étape où, tu sais, tu peux la laisser au parc avec ses potes et toi, tu vas avec tes copains de ton côté. Donc c'est trop bien, c'est une vie hyper, hyper festive, hyper, hyper, hyper kids-friendly, vraiment.
Bah justement, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman barcelonaise ?
Ça serait être une maman barcelonaise, c'est pouvoir être soi, pouvoir éduquer son enfant comme on veut, sans avoir de jugement et sans se sentir culpabilisée ni rabaissée ou pareil, tu vois, pouvoir poursuivre une carrière professionnelle sans problème, parce que dans l'entreprise c'est complètement normal que tu partes 4 mois et même plus quand t'as un bébé et tu reviens et t'as ton job et tout roule, quoi. Il n'y a pas du tout cette pression-là de te dire « ouais, mais je pars, mais je vais revenir, qu'est-ce que je vais devenir, etc. » Tu n'as pas du tout ce sentiment-là. Donc, c'est vraiment pouvoir se dire que c'est quelque chose en plus dans ta vie qui ne va pas te ralentir professionnellement. Bon, après, là, je fais un peu le monde des bisounours, mais la réalité, c'est que tu as quand même les horaires. Tu peux pas être businesswoman et CEO là, avec un nouveau-né. Mais... Tout le monde comprend et t'es pas pénalisé pour ça. Donc ça, c'est très important.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Barcelone ?
Alors, il y a un endroit qui s'appelle Las Casitas. C'est des petites maisons en fait, c'est comme un énorme espace intérieur où t'as des petites maisons en bois. Et dans chacune des maisons, t'as un thème. Et donc, cuisine, médecin, t'as des déguisements, t'as un coin lit. Enfin, c'est trop bien. T'as un énorme canapé pour les mamans. Et du coup, tu laisses ton enfant en liberté là-dedans, en fait, il fait tout ce qu'il fait, enfin, forcément, et c'est tellement riche en activités que c'est trop bien, il s'éclate à chaque fois qu'elle y retourne, en l'occurrence, c'est trop cool, parce qu'elle refait, en fonction de son acquisition ou son développement du moment, elle va se diriger vers d'autres petites maisons, et puis voilà, et t'es en confiance, t'es serein, et c'est trop bien. Mais le vrai truc trop bien, c'est qu'à Barcelone, comme il fait quand même très très beau, le parc, hein, c'est, il n'y a pas à dire, ça reste les trucs les plus fréquentés.
Ouais, et la plage aussi, non ?
Ouais, la plage, ouais, aussi. Moi, j'habite un peu plus dans la ville, donc c'est moins accessible, mais c'est sûr que, ouais, ça, c'est dès mars, même, en fait, n'importe quand. Là, c'est le plus grand bac à sable possible pour elle, donc ça, c'est clair que c'est très cool aussi.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, en fait, quand je suis tombée enceinte, j'étais dans une troupe de comédie musicale. En français à Barcelone, et du coup je m'étais fixé un peu le challenge quand je lui ai annoncé. Du coup, comme j'avais encore à l'époque ce que je te disais au début de moi, ma vie s'arrêtera pas et tout, j'avais dit à la boss de ce truc là j'avais dit, écoute, je m'arrête pas, bien sûr je m'arrête pour accoucher, mais je veux bien faire partie de la troupe, je veux bien que tu me mettes un rôle, je reviendrai aussi vite que je peux. Et je m'étais fixé le challenge d'y arriver, et j'ai réussi. Mais là, donc après j'ai refait encore une année. Et après, là, avec le livre, j'ai dit, bon, là, on va quand même peut-être pas non plus s'emballer trop. Donc, j'ai arrêté. Et là, j'aimerais vraiment reprendre du chant, de la musique, de la danse, quelque chose dans cet environnement-là. Et pour la famille, on s'est dit, là, qu'on aimerait bien se faire un beau voyage l'année prochaine. Donc, on se laisse encore un an pour aller un peu loin et voir, je sais pas, en Asie ou je sais pas où, un endroit un peu pour lui faire découvrir un peu... Et puis pour découvrir ça ensemble en famille, j'ai bien envie de faire ça, parce que c'est vrai que forcément quand t'as un bébé, les transports sont un peu plus, enfin les voyages sont un peu plus limités, et forcément en fait quand on voyage on va voir nos familles parce qu'ils nous manquent. Donc voilà, donc là ça nous fait un petit projet à moyen terme pour aller voir du pays.
Merci beaucoup Candice.
Merci à toi.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.